Il est 12h15.
RJB Info.
L'heure du journal avec Sarah Carole. Bonjour, il ne faut pas couper dans les fonds du théâtre orchestre Bienne-Soleure et du nouveau musée Bienne. Le conseil municipal biennois estime que trop d'économies nuiraient à l'offre culturelle des deux institutions. Il espère convaincre le conseil de ville de Bienne ce soir. Quel avenir pour les relations entre Belle-Praon et les communes voisines? La commune doit voter dans un mois pour rester dans le canton de Berne ou rejoindre celui du Jura. Un choix qui impactera les relations intercommunales. Vivre 6 mois en produisant sa nourriture et en ne se déplaçant qu'à vélo. C'est le défi relevé par l'écrivain biennois José Ixelles. Il rédige en ce moment un livre inspiré de cette expérience. De la chaleur mais aussi quelques nuages cet après-midi. Le temps va rester sec et pourra se dégager un peu plus loin des reliefs. Les températures grimperont jusqu'à 27 à 29 degrés maximum. La rentrée, ce n'est pas seulement pour les écoliers. Les conseillers de ville biennois reprennent aussi le travail ce soir. Le législatif se réunit pour sa première séance après la pause estivale. La culture occupera une place de choix dans les débats de la soirée avec 2 motions concernant le théâtre orchestre Bienne-Soleure et le nouveau musée Bienne qui figurent à l'ordre du jour, Martha Duarte.
Les économies demandées au TOPS et au NMB sont trop lourdes de conséquences. C'est le message que souhaite faire passer le conseil municipal au législatif biennois ce soir. Il demande au conseil de ville d'enterrer 2 textes acceptés en septembre 2015 qui réclament des coupes dans les subventions accordées aux 2 institutions. Toutefois, selon l'exécutif qui s'appuie sur des études réalisées par le TOPS et le NMB, ces économies ne peuvent pas être atteintes sans remettre fondamentalement en cause l'offre car les institutions se verraient contrainte de renoncer à un domaine d'activité comme l'orchestre pour le TOPS ou l'archéologie pour le NMB. Le conseil de ville acceptera-t-il de suivre l'avis de l'exécutif? Réponse ce soir. Autre point à l'ordre du jour, les mesures de protection contre les incendies dans la maison tour du Palais des Congrès. Les conseillers de ville sont appelés à accepter un crédit d'1 350 000 francs pour la réalisation de nouveaux aménagements. Ces travaux sont imposés par l'assurance immobilière Berne et doivent être entre repris d'ici la fin de l'année, sans quoi l'accès au site sera interdit. Le conseil de ville se penchera aussi sur 2 postulats qui demandent d'assurer la survie du club Le Singe en proie à des difficultés financières.
L'avenir des relations entre Belle-Praon et les autres communes du Cornet, ainsi que celle de Moutiers. Le thème a été abordé hier lors de la visite des délégations des gouvernements bernois et jurassiens. Des représentants des 2 exécutifs sont venus à la rencontre de la population de Belle-Praon en vue du vote du 17 septembre. La délégation bernoise s'est ensuite dirigée vers Sorvilliers. Le gouvernement jurassien s'y rendra mardi prochain. À Belle-Praon, la commune a noué des liens avec les autres villages via la mise en place de syndicats intercommunaux. Le gouvernement bernois estime qu'un changement de canton pourrait remettre en cause ces collaborations. Son président Bernard Poulvert.
Les communes ensemble ont beaucoup de syndicats, les questions de scolarité, d'autres questions d'épuration des eaux, etc., ont trouvé des solutions communes. Et changer de canton, ça veut dire remettre ces questions sur le chantier. Il est possible qu'on trouve des solutions aussi bonnes. Moi, je ne veux pas dire que tout sera mauvais dans ce cas d'un changement de canton, mais c'est remettre ces questions sur le chantier. Est-ce que ça vaut la peine? Ou est-ce que ce n'est pas mieux de mettre son énergie dans le développement de cette belle région? C'est ça notre message, de dire, mettez votre poids, de continuer ce bon travail au sein du canton de Berne.
Mais le gouvernement bernois s'engage finalement à trouver, le cas échéant, des solutions.
Oui, nous ne sommes pas des gens idéologiques dans le sens qu'on veut rendre la vie plus difficile aux gens qui ne décident pas comme nous voulons. Nous nous engageons dans les 2 cas d'essayer de trouver des solutions qui sont bonnes. Et c'est possible, mais dans le cas de changement de canton, de la commune de Sorvilliers ou de Belle-Praon, ça va être nécessaire de trouver des solutions. Est-ce que ça vaut la peine d'ouvrir ces chantiers? Moi, je ne crois pas.
De son côté, le Jura souhaite le maintien des relations intercommunales entre Belle-Praon, les villages du Cornet et Moutiers. Le ministre jurassien Charles Juillard.
Ces collaborations fonctionnent bien pour la plupart. Elles donnent satisfaction à la fois aux autorités mais aussi aux utilisateurs. Et pour nous, il n'y a pas de raison que ça change. Donc les prestations qui sont servies à la population, et c'est ça qui nous guide dans les choix que nous devons faire sur le plan politique. Si ces choix de prestations offerts à la population nous demandent de collaborer, de continuer la collaboration, nous souhaitons continuer cette collaboration. Nous l'appelons de nos voeux sincèrement.
Mais ça dépend néanmoins, et ça vous ne le maîtrisez pas, de l'attitude des autres communes avec lesquelles Belpraon forme aujourd'hui un syndicat.
Oui, les autres communes ou même du canton de Berne, en fonction des degrés de compétence, s'il est communal ou cantonal. Mais de nouveau, nous en appelons à la raison et dire... Regardez, hors passion, qu'est-ce qui est le plus favorable pour vos citoyens. Je crois que cette pesée d'intérêt doit être faite par les autorités, qu'elles soient communales ou cantonales. Et aujourd'hui, on constate que ça fonctionne, alors pourquoi changer ?
Belpraon et Sorvilliers se prononceront sur leur appartenance cantonale le 17 septembre. Straumann grignote le marché à belles dents. Le fabricant balois d'implants dentaires, qui possède un site à Villeray, a réalisé un bénéfice net de 140,8 millions de francs au cours de cette période, un résultat en hausse de 4,4% sur un an. Son chiffre d'affaires s'est envolé, lui, de 18% à 543,4 millions grâce à des acquisitions. Dans son communiqué, Straumann déclare aussi se lancer activement dans le secteur de l'orthodontie, un marché en plein essor. La fusion du Haut-Vallon sera au cœur des discussions ce soir. La première des trois séances d'information sur le projet de mariage des communes de Courtelary à La Ferrière se déroule ce soir à Renan. Les citoyens pourront poser leurs questions aux membres du comité de pilotage en vue de la votation du 24 septembre. À cette date, les habitants des sept communes concernées devront se prononcer sur un accord de principe pour la poursuite des travaux. Le président du COPIL et maire de Villeray nous détaille le programme de la séance de ce soir. On écoute Richard Abéguer.
Nous avons prévu lors de ces trois séances d'information une partie présentation qui sera faite par les différents maires du COPIL, mais aussi une grande partie consacrée aux questions et aux différentes interrogations des citoyennes et citoyens.
Comment vous allez rassurer les habitants par rapport à leurs questions ?
Premièrement, pour les rassurer, il faut qu'on puisse donner des réponses aux questions. Ce n'est pas un projet qui doit faire peur, c'est un projet qui doit être rassembleur, qui est innovateur et qui doit faire envie à la population des sept communes.
Vos attentes par rapport à ces séances, c'est quoi ?
Alors, c'était tout d'abord de présenter ce projet à la population, d'avoir également de ressentir un peu l'avis de la population. Et puis, il est bon également de rappeler que la population des sept communes concernées n'a jamais été questionnée et on ne leur a jamais demandé son avis. Et il est important, à ce stade-là, de demander une fois l'avis de la population de manière officielle par le biais d'une votation de principe.
Des propos recueillis par Rebecca Garcia. Cette votation de principe se tiendra donc le 24 septembre. Les deux autres séances d'information se dérouleront le 24 août à Saint-Imier et le 31 août à Cormoret. Le canton de Berne réduit sa contribution aux factures de l'assurance maladie. Le conseil exécutif a décidé de diminuer les réductions de primes à partir de 2018. Seules les personnes de la catégorie de revenus la plus basse et les bénéficiaires de l'aide sociale seront épargnées par cette modification de l'ordonnance cantonale. Le nombre total d'ayants droit, soit 298 000 personnes, ne change pas. Dans son communiqué, le conseil exécutif précise que sans cette diminution de la manne cantonale, les réductions de primes coûteraient 26 millions de francs de plus que le montant alloué au budget pour l'an prochain. Et le conseil exécutif prend aussi position dans le conflit qui oppose les CFF au BLS. Il estime que le bras de fer entre les deux compagnies ferroviaires prend une ampleur qui nuit au transport public en Suisse et à la réputation des deux entreprises. Dans une lettre adressée à la présidente de la Confédération, Doris Leuthard, le gouvernement bernois demande que le DETEC engage un processus constructif en vue de l'octroi de nouvelles concessions dans le transport ferroviaire. Il attend également des CFF qu'il présente des possibilités concrètes de collaboration avec les BLS pour cet entretien. Il n'a pas effectué de déplacement motorisé pendant 6 mois. Le jeune auteur José Xell a aussi décidé de produire sa propre nourriture. Son expérience s'est terminée le 1er août. Elle a été réalisée dans le cadre de son prochain livre intitulé « Les nourritures locales ». Ce mode de vie alternatif devait permettre aux Biennois de réfléchir. Son projet avait séduit la Commission intercantonale de littérature des cantons de Berne et du Jura. L'an dernier, José Xell avait été le lauréat de la bourse d'aide à l'écriture Feldorio. Il avait remporté 15 000 francs. Il nous raconte l'expérience vécue.
Ça s'est bien déroulé. 6 mois, c'est long. C'était éprouvant. Mais c'était très enrichissant, je dois dire. J'ai découvert beaucoup de nouvelles choses que je peux ajouter à ma vie, à mon quotidien. Là, j'ai fait une expérience de façon radicale. Maintenant, je déradicalise, je reprends les trains, je vais reprendre des avions, mais il y a toute une part où voilà, je vais garder des éléments de cette expérience.
Là, vous parlez des aspects positifs de cette expérience. Est-ce que ça a quand même été contraignant ?
Ça a été contraignant, moi, dans la mesure où j'avais l'habitude de manger de façon très, très, très généreuse avant, yogourt et biscuits, une quantité de sucre assez phénoménale, en fait. Et puis, tout à coup, l'arrêt brutal du sucre, ça a quand même été un choc. Et puis, du coup, j'ai perdu 15 kilos. Donc, je sens la contrainte sur mon corps. Après, ça m'a plutôt fait du bien, en fin de compte. Alors, c'était contraignant, ça pouvait être difficile à certains moments où j'avais un peu faim et puis j'avais pas forcément la nourriture que je voulais sous la main. Mais je le vois d'un œil résolument positif.
Des propos recueillis par Anastasia Lirti. José Excel terminera d'écrire son livre en décembre. Ce troisième livre intitulé « Les nourritures locales » qui sortira dans le courant de l'année prochaine. La 5e Suisse est en congrès en cette fin de semaine à Bâle. La 5e Suisse, c'est donc celle des Helvètes qui vivent à l'étranger. Ils sont 775 000, soit 10% de la population. Le représentant se demande s'il y a un fossé entre la Suisse de l'intérieur et celle de l'extérieur. Lors de votations, notamment sur les thèmes migratoires, les Suisses de l'étranger manifestent davantage d'ouverture. La 5e Suisse a par ailleurs un problème. Les banques suisses refusent d'ouvrir des comptes aux expatriés. Explication avec la directrice de l'Association des Suisses de l'étranger, Ariane Rusticelli.
Les relations entre les Suisses et l'étranger et les banques sont difficiles depuis 2008. Au début, la raison principale, évidemment, c'était la régulation internationale au niveau financier avec les États-Unis. Après, ça s'est attendu à peu près au reste du monde. Et ce qu'on met en avant, c'est que souvent, c'est une manière détournée de faire une sélection des différents clients. Si vous avez la capacité financière de mettre 250 000 francs sur un compte, là, vous pourrez toujours trouver une banque qui vous acceptera. Mais si ce n'est pas le cas, la majorité des banques vous diront que ce n'est pas possible.
Qu'est-ce que compte faire le Conseil des Suisses de l'étranger ? Est-ce que vous avez des moyens de pression ?
Déjà, on a essayé de parler avec toutes les autorités, hein, évidemment, avant d'arriver aux pressions politiques. Le problème est que le Conseil fédéral dit qu'il ne peut pas intervenir dans des relations privées d'une entreprise avec ses clients. Et les banques, elles, disent que le problème est politique. Donc, on a décidé, en fait, d'attaquer sur trois axes. D'abord, la question des banques d'intérêt systémique. On veut attaquer sur le plan des banques privées. Donc c'est surtout les banques cantonales, et puis les banques telles que PostFinance, qui sont quand même à majorité en main de la Confédération, et là il y a une motion déposée à la Commission de politique extérieure du Conseil national.
C'était Ariane Rusticelli au micro de Serge Jubin. Le conseiller national valaisan Jean-Luc Ador, condamné pour discrimination raciale. L'élu UDC écope d'une peine de 60 jours amende à 300 francs avec un sursis de 2 ans pour ses propos tenus sur les réseaux sociaux après une fusillade à la mosquée de Saint-Gall en 2014. Il avait écrit « On en redemande » sur ses comptes Twitter et Facebook dans les minutes qui ont suivi la fusillade. Le tribunal de Sion a estimé qu'un lecteur moyen non averti ne pouvait déceler dans le tweet litigieux une quelconque ironie. 40 personnes ont été tuées aujourd'hui dans un glissement de terrain en République démocratique du Congo. Il a englouti un village de pêcheurs sur le versant occidental du lac Albert, d'après une source officielle. Des pans d'une montagne se sont affaissés sur le camp à la suite de fortes pluies. Et au Mali, un djihadiste a été prononcé responsable de dégâts à hauteur de 2,7 millions d'euros par la Cour pénale internationale. Il avait fait détruire les mausolées de Tombouctou dans le nord du Mali en 2012. La Cour a ordonné le versement de dédommagement aux victimes. Et enfin, à Hong Kong, ce sera la prison pour les leaders de la révolte des parapluies. Les meneurs de ce mouvement pro-démocratie, où les manifestants se protégeaient contre les gaz lacrymogènes à l'aide de parapluies, avaient déjà écopé de travaux d'intérêt général l'an passé. Ils ont vu leur peine alourdie à 6, 7 et 8 mois d'emprisonnement pour leur rôle dans la révolte. Aux yeux de leur soutien, ces poursuites sont une preuve que Pékin renforce sa mainmise sur l'ancienne colonie britannique, revenue dans son giron en 1997.
Il est midi 29.
Sport.
Le inline hockey féminin se met en vitrine dans le Jura. La Coupe d'Europe dames a lieu de demain à dimanche à Rosmaison. 8 formations seront en lice pour tenter de soulever le trophée. Les jurassiennes des Kourou Wolfies et du SHC Rosmaison devront batailler avec des adversaires danoises, britanniques et allemandes. Le niveau de jeu féminin n'est pas tout à fait comparable au masculin. Les explications de l'entraîneur des Kourou Wolfies, Marc Chapat.
C'est un sport où effectivement il y a déjà des très très bonnes joueuses, très techniques, qui pourraient jouer facilement avec des équipes de Première Ligue, voire même quelques équipes de Ligue Nationale B chez les hommes. Mais il y a aussi des joueuses qui ont beaucoup plus de mal, qui viennent de commencer, qui ont un niveau relativement bas. Il n'y a qu'une ligue chez les filles, donc ce qui fait qu'il y a des très bonnes joueuses, des joueuses relativement moyennes.
Il y a 3 équipes régionales, Rosmaison, Kourou, Bienne-Selanders, qui vont prendre part à cet événement. Quelles sont les chances finalement de ces équipes d'accéder au Graal, de soulever le trophée ?
Je crois que les 3 équipes ont leur chance. Rosmaison, forcément, ils jouent à la maison. Ils ont une très très bonne équipe, une équipe forte, une équipe qui a l'habitude de jouer en salle. Pour les Bienne-Selanders, ils ont dû recréer une nouvelle équipe cette année. Ils ont aussi leur chance avec une gardienne exceptionnelle. Et pour nous, les Kourou Wolfies, nous sommes sur le haut niveau du hockey féminin depuis quelques années. Nous allons tenter notre chance à fond, malgré la blessure de notre gardienne titulaire, ce qui nous met légèrement en difficulté à ce niveau-là.
Marc Chapat répondait à Mathieu Schaffner. Et en football, le FC Tavannes-Tramelan veut débloquer son compteur. Il dispute ce soir son 2e match du championnat de 2e ligue interrégionale. Les hommes de Steve Langel reçoivent Reinhardt à 20h30 à Tavannes. Et le prochain rendez-vous avec l'info, c'est à 13h dans le Flash avec Raphaël Girardin. Il fait beau et chaud aujourd'hui. Quelques passages nuageux sont encore à prévoir à proximité des reliefs cet après-midi, mais le temps devrait en principe rester sec. Et du côté des températures, justement, les maximales pourront atteindre 29 degrés autour du lac de Bienne et 27 degrés dans les vallons. Pour l'heure, les thermomètres affichent déjà 23 degrés à la Neuville, à Bienne, à Moutier et à Delémont, 22 degrés du côté de Tavannes et de Saint-Imier, et enfin 20 degrés à Tramelan. Demain, le temps sera à nouveau ensoleillé et chaud. Par contre, en fin de journée, un orage, voire des averses sont à prévoir, des pluies qui se généraliseront d'ailleurs dans la soirée et dans la nuit. Samedi, le week-end se poursuivra donc avec un temps d'abord très nuageux, avant que le ciel ne se dégage et laisse place à de belles éclaircies. Par contre, une averse pourrait à nouveau survenir en fin de journée et les températures seront nettement plus fraîches avec des maximales qui oscilleront autour des 20 degrés.